À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Camille Jusat rencontre Mathalie Crasset. Ce soir, et si le design était politique ?
Bonsoir Mathalie Crasset.
Bonsoir.
Nous avons évoqué toute cette semaine vos débuts avec Philippe Stark, votre refus comme designer de fabriquer des objets qui seraient réduits à leur seule forme. On vous a entendu hier nous parler d'architecture et de la manière dont pour vous le design peut aussi s'emparer d'espace. Mais c'est pas terminé parce que 30 ans après l'entrée dans votre école, quasiment 30 ans, vous raffinez toujours plus cette approche du design. Et aujourd'hui, vous développez des projets dont l'ambition sociale et culturelle est très forte. C'est ça qui, 30 ans après vos débuts dans le design, vous meut ?
Oui, je pense que là encore, c'est une question de rencontre. Le premier projet un petit peu fort dans ce secteur que j'ai pu réaliser, c'est la Maison des Petits au 104. Donc, à Paris, on connaît ce bâtiment qui est l'idée d'amener en fait la culture avec énormément de place dans le 19e, dans un endroit où on a quand même beaucoup de cultures différentes justement et une certaine pauvreté et une densité aussi. Et donc j'ai été appelée en tant qu'artiste en résidence pour créer la Maison des Petits, qui en fait a un fonctionnement plutôt d'une maison verte. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Donc c'est plus un accueil pour les parents et les enfants. Donc il ne s'agit en aucun cas de laisser son enfant faire des activités artistiques pendant qu'on va voir les expos autour, qui sont d'ailleurs proposées.
La maison verte héritée de Françoise
Dolto.
Oui,
bien sûr, la maison verte de Françoise Dolto. C'est la première maison verte, si je puis dire, qui est aussi une œuvre d'art. Donc c'est un nouveau format. Et l'idée, c'est vraiment une aide à la parentalité, c'est-à-dire pouvoir se poser, et on sait que c'est de plus en plus nécessaire, les appartements sont petits, et voilà, de trouver en fait comme ça une espèce de bulle dans laquelle on va pouvoir interagir, parents et enfants ensemble, en petit comité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'échanger des choses, il va y avoir la possibilité de s'entraider, en bienveillance bien sûr, puisque l'équipe est plutôt constituée à la fois d'artistes, mais aussi d'éducateurs et de psychologues. Donc c'est pas des animateurs du tout, on vient pas proposer un savoir quelconque par rapport à un artiste, vous voyez, c'est pas du tout ça, c'est l'idée de vivre, là encore une fois. Et donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est très fort, puisqu'en fait, là encore, des projets un peu expérimentaux ont besoin d'être en fait au quotidien activés par des gens qui sont d'une dimension un peu supérieure. Et Nicole Roux, qui dirige la Maison des Petits, est vraiment de cette nature.
C'est très subtil, hein, l'idée de la Maison Verte de Françoise Dolto. C'est-à-dire c'est un lieu où on vient avec son enfant, on n'y fait pas grand-chose, en tout cas, c'est pas très déterminé. Et en fait, de grandes choses s'y passent.
Oui, de grandes choses s'y dévoilent sans même qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et ce qui est beau pour moi, c'est d'arriver à faire en fait des structures. Alors par exemple, je vais citer un exemple qu'on pourrait être plus clair. J'ai fait au centre du lieu ce que j'ai appelé le nombril, qui est en fait l'endroit où les mamans vont se sentir en fait à l'aise pour poser les bébés en protection un petit peu justement de ceux qui marchent et en même temps être tous ensemble pour pouvoir bien sûr leur proposer des petits objets d'éveil par exemple, mais surtout pour parler, parce qu'on sait que avoir un enfant, c'est pas anodin, et qu'il y a beaucoup de problèmes, de blues qui arrivent autour du cinquième mois, par exemple. Ça change énormément l'équilibre de la famille. Et donc, en fait, on a besoin de structures comme simplement pour parler des choses comme ça et pour faire en sorte d'affronter en fait ces moments de la vie qui sont un peu compliqués.
Et donc c'est ce lieu où les enfants et les parents vont jouer, lire, peut-être dessiner, entourés d'autres familles, de cette équipe. Et comment vous avez réussi à traduire dans l'espace ? C'est quoi ? Vous ouvrez des possibles ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a ce nombril dont vous parlez.
Oui, ce sont des petites zones comme ça qui propose différents types d'autonomie, donc en fonction des âges des enfants. Donc bien sûr le nombril pour les tout petits, parce que j'ai oublié de préciser que Nicole accueille les petits et son équipe accueille les petits, les bébés. Et après on va avoir un autre endroit par exemple qui représente une petite maison pour les jeux symboliques. Donc là on va jouer au papa et la maman, mais ce qui est très important, mais avec une petite cabane perchée, mais avec aussi la possibilité de jouer avec l'eau, un peu sur les principes de Maria Montessori justement, dans l'idée de qu'il y a une espèce de pré-apprentissage des mathématiques. Voilà, toutes sortes de structures comme ça. Rien n'est imposé. Chacun va... Enfin, surtout les enfants. Hein. Et d'ailleurs, quand on accueille les enfants, on est à hauteur d'enfant. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur l'idée de champignons, en quelque sorte, qui vont permettre de laisser tout l'espace ouvert, une espèce d'open space, mais... en même temps de pouvoir redonner en fait un petit chapeau comme ça autour d'activités, et surtout pour les bébés, pour pas qu'ils soient dans cette grande espace ouvert, ça leur convient pas.
Quand on pense au design, on peut pas s'empêcher, alors évidemment le design explose dans les années 50, 60 avec la société de consommation, donc on attache le design à cette idée de la consommation, d'avoir des beaux objets, d'en avoir plein, etc. Est-ce que vous aviez imaginé, en rentrant à l'ANSSI les ateliers, un jour travailler sur des projets comme ça, où des questions de relations parents-enfants, enfin on est hyper loin de l'objet, Nathalie Crasset.
On est au cœur du projet, on n'est pas... Non, moi je parle, j'ai toujours pensé que le design, c'est révéler la vie, donc c'est pas une question d'objet. L'objet est un support. Moi je dirais même que je me sers de l'objet et de l'espace pour arriver à faire en sorte de revivre ensemble ou de... Vous voyez, c'est ça l'idée en fait. Donc l'objet, il se guide, il s'oriente, je veux dire, et si on le fait pas nous, bah, il est fait quand même par quelqu'un. Et la symbolique qui est autour, c'est la même chose. Donc en fait, c'est ça notre métier en quelque sorte, c'est d'arriver à créer des structures, mais qui soient intentionnées et surtout qui soient dirigées pour le meilleur en quelque sorte, hein, pour faire en sorte, dans certains cas, de proposer le vivre ensemble, dans l'autre, de proposer l'épanouissement des enfants, vous voyez, en fonction du lieu qu'on vient proposer, enfin qu'on vient travailler.
Il y a quelques jours, vous nous parliez de Jean Baudrillard qui dit « c'est l'objet qui nous pense ». Vous refusez que l'objet nous pense, il faut qu'on pense l'objet.
Je ne suis pas du tout fétichiste, en fait. Je pense que l'objet, il faut pouvoir... après, chacun a la relation qu'il veut. Moi, je ne veux pas non plus... Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai pas de leçons à donner. Moi, je propose des choses, ce sont des invitations, et ça, c'est important. Je propose ces invitations dans des contextes bien particuliers, où on peut développer ce genre de pratique, où on est ouvert à expérimenter les choses, et voilà, et qui se trouve dans la même optique peut en fait en bénéficier.
Il y a beaucoup dans vos projets, alors c'est pas le seul espace que vous avez conçu pour des enfants, il y a beaucoup, toujours cette idée de la cabane. Alors c'est une cabane assez singulière, souvent parce qu'elle a des arceaux, ouais. Hein, elle est plutôt comme une proposition de cabane, c'est comme si vous refaisiez des espaces dans les espaces, protéger
oui,
des espaces.
Oui, en même temps, en les ouvrant un petit peu, parce que je lutte contre cette idée de cocon qui nous sépare, tout simplement, il faut le dire. Et l'idée de proposer des espaces à la cabane dans la maison des petits est un peu différente. Il y a toujours une cabane dans les maisons vertes, de façon à ce que l'enfant puisse s'isoler. Et là, en plus, on a mis un miroir à l'intérieur, parce que c'est très important qu'à un moment donné, l'enfant puisse se voir dans son développement. Et donc, voilà, c'est ce rôle-là. Donc, en fait, elle va prendre un rôle différent en fonction des projets, la cabane. Mais en général, oui, il y a une petite cabane.
Là, en 2016, vous avez participé à un nouveau projet, le MUMO,
oui.
Pour Musée Mobile. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet objet, Nathalie Crasset ?
Là encore, c'est une belle aventure. Ingrid Brochard a eu cette intuition de dire que... Ben, c'est pas qu'une intuition, c'est 60% des enfants qui ne sont jamais allés, en fait, c'est une réalité, hein, visiter un musée. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers eux, d'aller dans les villages, d'aller dans les villes moyennes et de proposer un musée. Alors ce MUMO a un fonctionnement un peu particulier, c'est qu'il va se voyager par région et en fait en collaboration avec les FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain. Donc depuis, comme vous le savez, depuis 30 ans maintenant, les FRAC collectionnent en fait des œuvres d'art, et l'idée c'est d'aller puiser dans ce fonds et d'aller les porter en fait avec cet outil qui est en fait un gros camion. Alors j'ai eu la charge de le dessiner, c'est assez marrant. Donc c'est un camion qui va en fait s'expanser. On a des tiroirs qui s'ouvrent sur le côté pour augmenter l'espace. Et dans ce mouvement, j'ai ajouté en fait tout simplement en utilisant la force hydraulique des portes sur le côté qui vont se déployer un peu comme des ailes, de façon à créer un espace convivial tout rouge autour, pour pas simplement amener l'art à l'intérieur du camion, mais aussi inviter à se poser les parents. Et bien sûr, on va faire les activités avec les enfants autour du camion. Donc d'un côté, on va s'asseoir, un espace convivial, et de l'autre, on va en fait montrer le résultat des animations, de la médiation faite avec les enfants. Et dedans, on va avoir par contre ce qui est proposé par les artistes sous forme d'un petit cabinet de curiosité, puisqu'en fait l'idée c'est que c'est un espace qui fait à peu près 40 mètres carrés, où l'idée c'est pas de montrer des choses énormes, mais plein de petites choses et qui peuvent être des stimuli, et plus on en a des différents, et plus l'enfant vont trouver à un moment donné une œuvre qui va leur parler. Parce que l'important, c'est ça, c'est de créer des perches, vous voyez, pour que les enfants puissent les prendre et trouver un intérêt et montrer en fait la richesse aussi de réflexion des artistes, ou l'aspect critique aussi que peuvent avoir les artistes sur notre société d'aujourd'hui. Donc il y a ce petit cabinet de curiosité où on montre des choses en verticale sur les murs. Au centre, on a un grand podium pour aussi montrer de la sculpture. Et au fond, on a un espace qui peut servir pour une installation ou qui peut servir d'auditorium. On va avoir une projection pour montrer des films d'artistes. Et ces films d'artistes peuvent être aussi projetés sur une grande vitre sur le côté du camion, de façon à faire une espèce de drive-in pour montrer les films d'artistes le soir, là, aux enfants et aux parents ensemble rassemblés.
Dans un seul objet, il y a tout le musée, tout ce qu'on trouve dans un musée habituel.
Parce voilà, que... en réduction, mais et mobile, ce qui est pas une tâche facile.
Une petite valise de Duchamp.
Voilà. Non, c'est un très beau projet, je suis très fière. Et là aussi, on voit l'articulation, l'intelligence du projet, puisque ces œuvres d'art, elles existent, elles sont dans des fonds, donc il suffit de les sortir. Et là, on voit toute l'exception, peut-être, de la France qui a des structures comme ça qui sont exceptionnelles, il faut le dire. Le 1%, les FRAC, tout ça, c'est assez fort. Donc, ils font notre rôle, c'est aujourd'hui d'utiliser, vous voyez, de magnifier, de continuer toutes ces structures qui ont été prévues à un moment donné et qui font sens.
Oui, il faut vraiment imaginer qu'en plus, ce camion, quand il se déploie, hein, tout à coup, on se retrouve avec une petite cantine, j'allais dire. Non, enfin, en tout cas, il y a des
c'est
tables.
C'est un peu
et
comme
des...
un cirque. Je voulais vraiment que ça amène un côté festif, un peu merveilleux. Voilà,
rouge.
C'est le chose. Ouais, elle est très visible, il est rouge, on ne peut pas le louper.
On imagine bien que vous auriez voulu avoir un objet comme ça qui passe à normer.
Bien sûr, oui, j'aurais rêvé.
Est-ce que ça veut dire que le design a aussi une dimension politique, Nathalie Crasset?
Bien sûr, puisque comme je vous le dis, il faut orienter le projet. Donc en fait, on va non seulement essayer de proposer des valeurs, mais il faut prendre position. Je dis, faire du design, c'est faire un acte de design. Donc c'est aussi être clair sur quel monde on défend, quelle société on veut construire, et simplement faire les structures pour que ce monde puisse exister. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'idée de fédérer, c'est-à-dire ça ne va pas être forcément obligatoirement l'idée de matérialiser avec de la matière. Notre métier, ça peut être aussi beaucoup d'organiser juste la colonne vertébrale, de faire le projet pour que les gens se regroupent. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer à l'action, mais ils savent pas comment. Donc en fait, voilà. Donc cette intelligence de structurer, déjà faire le pas de côté pour voir quel type d'articulation on peut trouver. Et ça, je crois beaucoup donc au potentiel en fait du design pour aller justement travailler sur l'innovation sociale. Et les projets dont on vient de parler, c'est vraiment l'articulation entre le social et le culturel. Et je pense que En France, moi, quand je vais montrer mon travail à l'étranger, les gens ne comprennent pas comment je peux mélanger, en fait, comme dans le projet du 104, par exemple, quelque chose d'artistique et social. Et pour nous, c'est naturel, en fait. Vous voyez, c'est parce qu'on est... C'est deux piliers de notre société en France, je pense. Et donc, c'est tout à fait naturel de les faire fonctionner ensemble. Et ça, on n'en est pas assez conscient. Et il faudrait quand même... à un moment donné, en être plus conscient et faire en sorte que ça puisse se multiplier dans plein d'endroits, parce que c'est ce qui va permettre aussi, à un moment donné, de consolider quelque part, d'être plus dans le repli, parce qu'on est quand même dans une situation où on a un peu peur en ce moment d'innover. L'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur des petits exemples comme ça et après de pouvoir essaimer. On manque énormément dans notre société aujourd'hui de lieux où on peut expérimenter. Vous voyez, il faut pouvoir comprendre par soi-même. Mais les gens ont envie vraiment de passer à l'action. Donc, il faut qu'on utilise ce savoir-faire du designer, d'articuler les choses, d'avoir cette capacité à regarder globalement les choses, donc de gérer cette complexité, puisqu'on a aujourd'hui, c'est même plus, je me disais, regarder l'évolution de la société, c'est prendre parti par rapport aux contradictions. À chaque fois qu'on fait un projet, c'est très c'est des contradictions énormes. Donc il faut prendre position. Et donc notre métier nous demande d'être de encore plus engagé qu'avant. Or, on a l'impression que aujourd'hui, les jeunes générations, c'est pas le même engagement en fait. Je veux pas dire qu'ils sont pas engagés, mais c'est pas le même engagement. Mais cet engagement, il est nécessaire.
Toujours dans cette idée d'être engagé, de s'engager dans le monde, vous avez aussi développé un projet très écologique, qui est le vent des forêts, des petites cabanes, des petites maisons dites sylvestres dans la forêt.
Là aussi, c'est un beau projet dans la forêt, avec aussi quelqu'un de formidable, Pascal Lionel. C'est un projet qui existait déjà, mais qu'il a vraiment amplifié, bonifié, avec une connaissance du territoire énorme. Donc, de quoi il s'agit? C'est 6 petits villages qui, à un moment donné, se décident de partager leur forêt et de faire partager, justement, avec des gens qui vont d'abord venir aussi pour se promener en forêt, faire des parcours, mais aussi découvrir de l'art contemporain. Donc, 6 à 7 artistes sont invités à proposer des œuvres, mais c'est pas invité à poser un truc comme ça. Non, ils arrivent, ils sont en résidence chez les gens et ils vont faire un travail justement un peu plus profond, c'est-à-dire on va pas poser n'importe quoi dans la forêt elle demande quelque part une façon de réfléchir un peu différente. Donc ce sont des œuvres qui sont ni éphémères ni durables, c'est des œuvres qui vont en fait c'est la forêt qui va choisir si elles vont perdurer ou pas. Et donc ça demande une espèce d'humilité de la part de l'artiste et ce projet est formidable parce qu'en fait comparé à une petite galerie d'art, en fait, on va dire, à Paris, avec les moyens, le budget et sa petite surface, ici, les moyens sont décuplés, parce qu'en fait, on a des agriculteurs, ils ont des mécanismes, il suffit de passer 2 coups de fil, on va pouvoir, vous voyez, soulever quelque chose d'énorme. En fait, donc, les artistes arrivent avec des projets les plus improbables, les plus difficiles. C'est pas grave, tout le monde se met à la tâche et tout le monde construit en fait ces objets. Donc moi j'arrive en fait dans ce contexte-là, ça existe depuis une dizaine d'années, et Pascal me dit on va faire un volet plutôt hospitalité, comment les gens ils vont rester un peu plus dans la forêt, parce que en fait faire un parcours la journée c'est quelque chose, mais en fait pouvoir y dormir le soir c'est une autre compréhension de la forêt. Et là donc je propose de faire une espèce de module qui va se répéter mais en se changeant pour faire ces petites maisons sylvestres qui sont des maisons sans permis de construire, justement pour pas rentrer dans ces espèces de complexités administratives. Donc c'est 20 mètres carrés et c'est bien parce que c'est un petit refuge et on va aussi proposer une façon un peu expérimentale d'être dans la forêt. C'est fait avec les entreprises du coin, avec l'association de réinsertion qui s'appelle les Compagnons du chemin de vie pour faire la menuiserie. Vous voyez, ça va prendre du temps, on va mettre un an pour faire une maison, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de construire ensemble et de créer cette comme les œuvres d'art le font, cette connexion entre les gens et le fait de proposer un nouveau type d'hospitalité, mais aussi une microéconomie qui commence à s'organiser et qui va donner aussi envie à d'autres d'ouvrir des auberges auberge à côté, où, vous voyez, pour accueillir les gens. Et suite à ce premier programme de petites maisons, donc on en a fait 4, l'idée, ça a été aussi de créer des objets à l'intérieur avec les artisans locaux, et de répertorier comme ça un couvent qui fait des couvertures. Donc on a travaillé avec le Sorlor, là-bas, Georges, qui est quelqu'un qui voyage, mais qui va nous faire de la vannerie, vous voyez, sur le territoire, de cette finesse, en fait, de compréhension des acteurs et de tous les acteurs du territoire, en fait, ce projet permet de les catalyser, simplement, de catalyser les bonnes volontés et de se prendre en main, et voyez, de changer à petite échelle. Mais ça fait énormément de bien quand on va, en fait, le 13 juillet, tout le monde se retrouve, et on va pas parler de design, on va pas parler d'architecture, on va pas parler d'art, on est là, on mange ensemble, on sourit, on se laisse émerveiller par les nouvelles pièces qui sont là. Et c'est un peu la même chose qu'on propose dans la petite maison sylvestre. On vient dormir, on réapprend à écouter les oiseaux, on se laisse vivre et en même temps, on est dans la nature.
Et donc, elles sont où, ces maisons sylvestres, Nathalie Crasset ?
Elles sont à l'est de Paris, c'est à peu près juste une heure de TGV, en allant vers Metz, et elles sont dans la Meuse, étalées sur 6 petits villages, donc, et ça s'appelle le Vent des Forêts.
Vous nous racontiez au début de la semaine les liens entre design et industrie. Le design, ça commence avec la révolution industrielle, à partir du moment où on commence à fabriquer des objets en série. Et quand vous nous dites il faut prendre parti dans ce monde, aujourd'hui on ne peut pas ne pas prendre parti, vous avez été très inspirée par une philosophe américaine qui s'appelle Jane Addams, qui justement va réfléchir à cette question de comment on se positionne au début de la révolution industrielle. C'est qui Jane Addams?
Alors, Jane Addams, en fait, je l'ai découvert en faisant un voyage à Chicago. Et en fait, c'est un peu le début de ce qu'on appelle la sociologie urbaine. Donc, tous les migrants arrivent à Chicago. Et puis, d'un seul coup, elle essaie d'étudier jusqu'où on peut aller, comment ces mélanges opèrent. Et surtout, elle va créer la hula house, en fait, un settlement, pour faire en sorte que, dans un premier temps, de s'occuper des petits, parce que les parents partent travailler, mais en laissant les petits à la maison, vous pouvez imaginer. Et elle va aussi leur mettre des œuvres d'art très très chères, en fait, au mur, vous voyez. Et elle va donner de la dignité aux parents qui, eux, ont perdu leur métier, arrivent à Chicago, vont travailler à l'usine et d'un seul coup, pour leurs enfants, en fait, sont déqualifiés, ils ne parlent pas la langue, ils sont à l'usine, etc. Donc elle va, en fait, recréer, mais c'est une infinité de ce qu'elle a fait. Donc quelqu'un qui a vraiment compris en fait son époque et les tiraillements de son époque pour créer, en fait, agir et créer ce settlement qui est passé d'une maison à 13 maisons. Je vous invite à regarder sur Internet, en fait, les photos de l'enterrement de cette femme pour voir l'impact qu'elle a eu sur son territoire. Ça me permet, et voilà, j'aime bien, en fait, regarder qu'est-ce qui, au début du siècle, l'arrivée de l'industrie, quels sont les gens qui se sont un peu opposés ou qui ont créé des systèmes alternatifs. C'est la même chose avec Jean-Baptiste Gaudin. À Guise, je suis allée, et justement, j'étais très contente de proposer ce projet à mes élèves de la aide de Genève, une immersion, en fait, dans cette utopie, mais réalisée, où encore des gens habitent. Et l'idée, c'est qu'on a travaillé sur l'idée d'aménager, justement, un appartement. Gaudin décide, en fait, c'est quelqu'un qui a un ouvrier, en fait, qui fait un premier poêle. Il invente, en fait, un poêle. On le connaît tous, le Gaudin, le poêle de Gaudin. Et en fait, il va petit à petit créer une vraie industrie. Mais toutes les bénéfices de cette industrie vont être fonctionner, on va dire, pour créer le palais social. Et en fait, développer à la fois des écoles, une piscine, enfin tout est... Mais ce type, c'est un génie. Et moi, je dirais que c'est le premier designer. J'aimerais bien faire d'ailleurs une exposition sur Gaudin, premier designer complet, puisqu'en fait, il a dessiné les berceaux, il a dessiné l'architecture. Mais non seulement ça, mais en fait, l'articulation, parce que ce qui est plus compliqué, c'est ça, c'est l'articulation. C'est
entre
pas tant
industrie,
de...
voilà, habitat...
Comment... Voilà, comment
école.
Tout se... Voilà, en croyant énormément à l'émancipation et au fait de donner à tous ces gens qui sont autour de son usine, en fait, la capacité d'évoluer et de prendre les choses en main. Quelquefois, il faut aussi aller regarder un peu en détail sur tous ces projets qui ont existé. Et il y a les ferments de ce qu'on est en train de rechercher à faire aujourd'hui, en quelque sorte.
Vous disiez que vous avez emmené vos étudiants dans cet endroit, faire mener un projet.
Oui.
Qu'est-ce que ça a comme place dans votre vie, l'enseignement ?
Alors l'enseignement, moi je suis assez... moi j'aime bien faire de la pratique. Donc en fait, mon propos, c'est de prendre un petit groupe, un groupe, et de les emmener sur des contextes bien particuliers, les faire sortir de l'école, tant que je peux, et de faire un projet concret, un projet qui va durer, un projet qui leur fait découvrir quelque chose. Donc là, le Familistère, c'est formidable. Donc je fais plein de workshops à l'étranger, j'en ai pas parlé, mais là, j'ai j'interviens dans deux écoles de façon récurrente, à la Aide à Genève, et puis à l'UNESCO à Champ, dans la section design. Et là, le projet que j'ai proposé, c'est de travailler sur le bâti, l'environnement bâti et la santé. Et on est en train de travailler sur de la géothermie, donc une structure habitable avec de la géothermie, mais à chaque fois en essayant de trouver un sens et d'aller justement bien articuler à la fois la géothermie avec d'autres apports, en fait. Voilà. Donc ça, c'est... J'aime beaucoup, en fait... travailler sur des projets concrets, parce que je pense que la complexité du design aujourd'hui, c'est qu'on peut être amené à voir beaucoup de choses, à être confronté à la complexité du monde, mais il y a rien de mieux qu'à un moment donné, à la fois être sur un terrain et rencontrer les gens, se faire une idée, et surtout les projets que je propose sont des projets communs pour la plupart.
Nathalie Crasset, vous, quand vous avez commencé vos études à l'ENSI des ateliers, c'était un moment très particulier, c'était une vraie volonté politique, vous nous avez raconté, une volonté politique d'amener le design dans l'industrie française. Aujourd'hui, on est dans quel moment pour les étudiants en design et qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter? Parce qu'évidemment, on est dans un monde où on a l'impression qu'on a encore plus d'objets, on a tous ces objets liés au numérique, les téléphones, etc. Bon, on est dans une profusion d'objets, on n'est pas du tout dans la même période que cette fin des années 80 où vous avez commencé vos études. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, leur transmettre à vos étudiants?
J'aime simplement leur dire que c'est à eux de trouver leur terrain où ils vont agir, en fait. Et donc, quand je suis sortie de l'école, moi, c'était assez simple. L'idée, c'était de faire des objets. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres façons de faire du design. On peut faire aussi du numérique. Et là, il y a des enjeux énormes. On n'en a pas parlé, mais c'est pour moi une opportunité immense de réinjecter des valeurs à l'intérieur de notre société aujourd'hui. Il faut pas le laisser faire. Il faut vraiment... Et on est tous responsables dans tous nos métiers respectifs. Il n'y a pas simplement les designers, mais les designers ont aussi cette capacité, quelque part, de faire ce petit pas de côté et de proposer ces décalages et peut-être de trouver la façon d'imbriquer et d'articuler les projets.
Merci beaucoup, Nathalie Crasset, pour cette semaine passée ensemble.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Au revoir.
Fin de cette rencontre de Camille Jusa avec Nathalie Crasset. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.